Mais pourquoi tant d'histoires?
Mais pourquoi tant d'histoires?
Mais pourquoi tant d'histoires? Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce. Dans le cadre de nos émissions « Pourquoi tant d'histoires ?», je vous invite à un retour sur l'art délicat de l'écriture de cette science. La revue « Écrire l'histoire » propose dans l'un de ses numéros, qui est paru en 2019, de réfléchir, je cite, « sur la double dimension du rapport de l'historien aux langues pensées à la fois comme outil et comme objet. Cette science de l'histoire a de profondes racines en littérature, vous le savez, chaque peuple, civilisation revendique en général son récit de la création, son mythe fondateur comme départ de son histoire. L'histoire n'est-elle alors que littérature ? Peut-on réfléchir sur l'histoire du récit, sur la langue de ce récit ? Peut-on définir des concepts linguistiques qui détermineraient cette histoire ? Le langage peut-il alors être un terrain d'investigation? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec l'historien Fabien Simon. Bonjour Fabien Simon.
Bonjour.
Vous avez coordonné l'écriture de la revue Écrire l'histoire, enfin du dossier L'historien et les langues, avec notamment l'historienne Paul Petitier. Vous êtes également professeur à l'université Paris Diderot et spécialiste de l'histoire des savoirs du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et l'une de vos spécialités, vous en doutez, chers auditeurs, c'est l'histoire des langues et notamment le rapport entre les langues et l'histoire et les langues universelles. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous présenter cette revue Écrire l'histoire ?
Tout à fait, avec plaisir. Donc c'est une revue dont il se trouve que depuis cette année, enfin un an et demi, je la co-dirige avec une collègue. Et cette direction bicéphale exprime un peu la nature de la revue, qui est une revue pluridisciplinaire. Alors c'est une revue qui est ancrée dans l'université Paris Diderot, maintenant appelée depuis quelques mois tout simplement Université de Paris. Une revue donc qui a été fondée en 2008, qui est paru sous cette forme d'un numéro annuel depuis 2014, et donc qui est une revue ancrée au départ dans un des laboratoires de l'université à l'époque, donc Paris Diderot, qui s'appelle le CERILAC, hein, le Centre d'études et de recherche interdisciplinaire de l'UFR Lettres, Arts, Cinéma. Donc ce lieu de fondation exprime un peu la manière dont la revue conçoit les choses, hein, avec dans ce laboratoire un axe consacré à écrire et penser avec l'histoire. Donc un laboratoire qui rassemble plutôt des littéraires, hein, ce qu'on appellerait des littéraires, des spécialistes d'histoire de la littérature. Donc la revue a été créée notamment par la collègue qui a co-dirigé ce numéro-là 2019 avec moi, Paul Petitier, qui est une spécialiste en particulier de Michelet, qui a réalisé en début d'année l'édition à la Pléiade de Michelet, et par Claude Millet, qui elle est spécialiste de Hugo et de son rapport à l'histoire. Donc c'est une revue qui a pris pour thème les représentations de l'histoire et du passé sous toutes ses formes, hein, la manière dont elle s'exprime sur des supports du vers. Hein, la revue se veut, je cite son texte de présentation, un espace de confluence des histoires de l'histoire, des manières de se servir de l'histoire, et elle est un lieu de rencontre. On y reviendra à cette question à partir de la thématique du numéro lui-même sûrement, mais elle est un lieu de rencontre entre différentes disciplines. Je l'ai dit, hein, la littérature, l'histoire, mais aussi l'esthétique. Et je le disais maintenant, hein, la direction bicéphale ancre encore plus dans l'identité de la revue cette dimension pluridisciplinaire, puisque j'ai la chance et la lourde responsabilité de prendre la succession de Paul Petitier et Claude Millet, donc moi en tant qu'historien, et ma collègue Florence Lautry, qui elle est historienne de la littérature du XVIIe siècle et spécialiste du genre. Donc voilà, une littéraire, un historien pour diriger dorénavant cette revue pluridisciplinaire, encore une fois.
Donc pour vous, les historiens doivent travailler avec les littéraires. Est-ce qu'ils doivent également travailler avec les linguistes ?
Exactement, oui, oui, tout à fait. Ils doivent le faire parce que cette et le numéro, c'est ce qu'il essaye, c'est ce dont il essaye de rendre compte, doit résider ce travail sur les langues dans la pluridisciplinarité. Il y a une forme dans le numéro là de pluridisciplinarité au carré, celle de la revue en elle-même que je viens d'expliciter et celle du numéro autour des langues. Alors, pluridisciplinarité. Pour bien de vos auditeurs, sans doute, ça va paraître une tarte à la crème, un lieu commun. Effectivement, c'est un terme que l'on retrouve beaucoup, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, voire décennies. Mais il y a une forme, peut-être, dans les dernières années, d'effet de mode autour de cette question. Et pourtant, cela n'en reste pas moins un élément fondamental, hein, qui sur lequel s'est construit la discipline historique. Hein, et je pense à la fondation des Annales en 1929 et à l'idée que la revue se veut un agent de liaison entre les différentes sciences humaines et sociales. Et finalement, ce questionnement est, au-delà de l'effet de mode, sans cesse remis sur l'établi de l'historien. Il m'apparaît comme fondamental et il l'est d'autant plus pour traiter d'une question comme celle des langues, qui effectivement, et le numéro essaye de le faire paraître dans les différentes contributions, s'intéresse à l'objet langue des spécialistes de disciplines différentes qui ont des approches différentes, des corpus de sources différents, des sensibilités aux textes différents, et c'est en rapprochant ces différentes manières d'aborder les langues que l'on peut avoir un point de vue le plus global possible sur cet objet. Donc on retrouve dans le numéro des contributions, je l'ai dit, de littéraires. Paul Petitier fait paraître un texte sur la langue de l'historien Guizot au XIXe siècle, des textes d'historiens de différentes périodes, médiévistes avec une contribution de Benoît Grévin, modernistes, plusieurs contributions d'Olivier Christin, d'Eva Guillorel par exemple, et puis aussi, évidemment, de ceux dont la langue est le cœur même des recherches, les linguistes, avec en particulier une contribution de Didier Samin, qui est membre d'un laboratoire de Paris Diderot, la revue là aussi fait transparaître l'ancrage pluridisciplinaire de notre université, le laboratoire HTL, Histoire des théories linguistiques. Donc l'idée du numéro et de mon travail et de ceux d'autres chercheurs sur les langues, c'est d'avoir cette approche pluridisciplinaire qui veut absolument la définir de la manière la plus précise possible et dépasser le lieu commun qu'elle pourrait paraître être dans un premier temps.
On connaît le roman national, on connaît les mythes fondateurs. Souvent, c'est difficile de savoir si l'histoire a un vrai lien avec le réel, avec le vrai. Dans les années 80, vous l'avez dit, l'étude du langage et de la linguistique est à la mode. Certains ont même pensé que l'histoire n'était qu'un récit. Et pour reprendre les mots de Roland Barthes, elle n'aurait eu qu'une existence linguistique. Qu'est-ce que vous pensez de cette pensée, de cette peut-être idéologie qui détache un peu l'histoire du réel et du vrai et qui en fait une espèce de concept intellectuel?
Alors là, je pense qu'on est dans un des aspects fondamentaux de la question et peut-être dans un des aspects qui ont fait que, dans le cadre de la pluridisciplinarité, finalement, peut-être que historiens et linguistes se sont un peu ratés pendant tout un temps. Et je pense que une des raisons de ce quiproquo, c'est justement ces éléments que vous rappeliez et ce qu'on a appelé, entre les années 60 et les années 80, le linguistic turn, le tournant linguistique qui repose notamment, en tout cas dans ses aspects les plus poussés, voire extrêmes, dans la formule de Roland Barthes, dans son article sur la langue de l'histoire, le discours sur l'histoire de 1967. Cette formule qui est « le fait historique n'a jamais qu'une existence linguistique ». L'idée chez Barthes que histoire et manière de raconter l'histoire ne peuvent être séparés, que res gestae, histoire, et historia rerum gestarum, la manière dont on la raconte, sont indissociables, et que finalement, les faits historiques n'existeraient que dans la langue des sources que les historiens abordent pour les traiter. Et finalement, c'est sur cette position extrémiste, hein, qui nie toute réalité à l'histoire, presque, qu'on en est venu. Ensuite, à partir de travaux d'historiens anglo-saxons en particulier, hein, d'historiens et philosophes, et je pense que le quiproquo relève aussi de ces approches différentes en fonction des spécialités disciplinaires, hein, Richard Rorty, Aidan White et Keith M. Baker, hein, cette triade d'auteurs qu'on associe en général au linguistic turn, et même si chez ces auteurs, finalement, notamment chez Aidan White, on n'est pas dans la définition extrémiste de Barthes, hein, dans la pure extériorité des faits historiques, eh bien, malgré tout, du fait de la lecture parfois erronée de ces textes, de l'absence de lecture parfois aussi, et de l'association simplement à l'étiquette linguistic turn, eh bien, on en est venu, les historiens en sont venus, et parfois à juste titre, hein, à se méfier de cette école historiographique-là, et par la force des choses aussi, à se méfier du coup de la langue, des linguistes, de la langue, comme permettant de produire une histoire qui, elle, serait ancrée dans le réel, hein, une histoire qui tend vers le réel, c'est son but. Alors, voilà, une sorte de quiproquo de départ, peut-être, mais qui me semble, et c'est ce que le numéro tente de faire transparaître aussi, qui me semble dépassable et dépassé depuis quelques années, hein, dans une volonté de réconciliation, et je pense que la traduction de l'article de Jürgen Trabant, hein, qui est un linguiste éminent, spécialiste de Wilhelm von Humboldt, dont nous traduisons un texte à la fin de la revue, exprime cette volonté de réconciliation qu'on a trouvée dans les travaux de Jürgen Trabant, hein, qui est un historien de la linguistique à travers les travaux de Humboldt, qui a échangé, et il en parle dans son entretien dans la revue aussi, avec Jacques Guillaumou notamment, donc un historien des discours. Donc il y a eu des interactions, et le texte de Trabant fait transparaître cette volonté de réconciliation, puisque au-delà de ces positions extrémistes, ce qu'a permis les linguistic turn, c'est malgré tout une prise de conscience, hein, comme le rappelle Trabant, de la dimension langagière, de la littérarité du discours historique, hein, et son caractère langagier, le caractère langagier à différents niveaux de l'histoire. Donc, la manière dont on a pu dépasser la formule synthétique « le monde n'existe que comme texte », hein, dans le linguistic turn extrémiste, à des formules beaucoup plus constructives, hein, visant à étudier les représentations scripturaires du monde social, les configurations discursives, pour citer Jacques Guillaumou, du monde social, hein, représentation scripturaire du monde social, c'est une formule de Christian Jouhaud, hein, historien des pouvoirs de la littérature au XVIIe siècle. Donc on a pu tirer finalement les bénéfices, au-delà de sa disqualification, de ce linguistic turn, en centrant l'intérêt des historiens, avec une approche différente de celle des linguistes, sur la question des langues, mais une approche qui est complémentaire de celle des linguistes, et les deux approches bénéficient l'une de l'autre.
C'est vrai qu'il y a un peu ce risque parfois d'inventer un système qui est une jolie musique linguistique cohérente, mais exclusivement intellectuelle, et en même temps, quand on regarde l'écriture de l'histoire, je pense à l'événement le plus emblématique, notamment l'histoire de France, qui fait encore débat, les polémiques entre Taine et Hollard n'ont pas l'air d'être vraiment apaisées sur la Révolution française. Finalement, quand un historien écrit, il prend forcément parti, que ce qu'il dit soit vrai, faux, ou seulement un rêve, ça a une vraie résonance dans le réel, dans la vie politique, dans la vie culturelle française. Qu'est-ce que vous pouvez dire autour de ce débat d'écriture, autour de ces certains événements, et je pense notamment à la Révolution française.
Alors débat d'écriture, oui. Alors ça, c'est un des aspects. Vous le disiez en introduction, un des aspects de la revue. Le dossier est intitulé L'historien et les langues, de titre de fable, mais il se concentre en particulier sur deux aspects. D'abord, les manières dont on peut aborder les histoires des langues au pluriel, hein, les langues comme objet d'histoire, On y reviendra peut-être par la suite. Mais aussi, la deuxième piste centrale, c'est celle de la langue comme outil des historiens. Quelle langue parlent les historiens et les rapports que vous évoquiez à l'instant entre l'histoire et la littérature. Et il me semble que, à travers la lecture de différentes des contributions, on peut aborder, on peut voir transparaître différentes thématiques centrales de ce rapport des historiens à la langue dans laquelle ils expriment leurs travaux historiques. Plusieurs des contributions, il y en a un certain nombre qui évoquent la construction dans le temps long de la langue des historiens. Je pense à au papier qui ouvre le dossier, hein, celui de Catherine Croisinaquet, qui évoque la langue des chroniqueurs médiévaux, la manière dont on écrit l'histoire à l'époque médiévale dans ses chroniques, entre latin et langue vernaculaire, entre poésie et prose. Je l'évoquais tout à l'heure aussi, le traitement de la langue des historiens du XIXe siècle, que ce soit Michelet dans d'autres de ses travaux, ou Guizot dans l'article qu'elle a fait paraître pour Paul Petitier, mais aussi un certain nombre de contributions qui s'intéressent à la question de la langue des historiens contemporains, dans laquelle, alors vous évoquiez Taine et Ollard, mais dans laquelle on retrouve cette question fondamentale du rapport et des tensions entre l'écriture historique et l'écriture littéraire. Hein, ça aussi, c'est un autre lieu commun, mais qui n'en est pas moins intéressant, celui du rapport tendu de l'histoire à la littérature, hein, qu'on songe chez les historiens positivistes qui veulent insister sur la dimension de science de l'histoire au XIXe siècle, au rejet, chez Langlois et Seignobos, du dit microbe littéraire, jusqu'à des débats tout à fait contemporains autour des publications d'Yvan Jablonka, notamment, s'interrogeant dans un de ses ouvrages récents sur le fait de savoir si l'histoire est une littérature contemporaine. Donc des tensions entre manière d'écrire l'histoire et science de l'histoire qui n'en sont pas moins intéressantes, au-delà des débats et de la disqualification évidemment du microbe littéraire dépassé. Je pense donc à, du côté de l'histoire, ces interrogations sur la dimension littéraire de l'histoire, et puis du côté de la littérature, sur la dimension, dans les travaux de Florent Coste par exemple, son essai qui s'appelle Explore, sur la dimension de science sociale de la littérature elle-même, une littérature d'investigation, donc des échanges tout à fait intéressants entre littérature et histoire. Et puis, vous l'évoquiez, au-delà de la question générale, rapport entre littérature et histoire, se pose aussi dans les différentes opérations de véridiction de l'historien, se pose aussi la question de la place du récit, et de la possibilité, alors vous avez évoqué un certain nombre de termes, le roman national, mais au-delà du roman national, on peut penser à la formule de Paul Venn, de l'écriture de l'histoire comme un roman vrai, et toutes ces questions-là, me semble-t-il, doivent être en tête, dans la tête des historiens lorsqu'ils écrivent leurs textes. Chaque historien se pose cette question-là, de la mise en récit des faits. À quel moment est-ce que l'on tombe dans la littérature? Est-ce que tomber dans la littérature est forcément disqualifiant? Est-ce que mettre en récit les événements que l'on raconte pour séduire aussi le lecteur, c'est faire de l'histoire ou la dépasser? Donc ça, c'est un aspect que l'on retrouve dans plusieurs contributions du volume et analysées dans le temps long. Cette analyse dans le temps long des rapports entre littérature et histoire permet à certains historiens, par exemple, de mobiliser de nouveaux types de sources. Des sources qui, jusque-là, étaient considérées comme purement littéraires, poétiques, et qui maintenant, du fait de ces rapprochements, de ce dépassement de la frontière, même s'il reste à interroger, entre littérature et science, on remet au centre des sources qui étaient plus ou moins passées sous le radar des historiens. C'est ce sur quoi insiste Benoît Grévin dans son article sur les miroirs déformants des cultures linguistiques médiévales, lorsqu'il évoque ce nécessaire dépassement de l'opposition entre littéraire et non littéraire, notamment dans tous les travaux autour de l'Ars Dictaminis, et ses textes qui tiennent de la poésie, les lettres, les textes du pape, des empereurs, mais qui sont aussi des textes administratif. Alors on a du mal, avec notre point de vue contemporain, à les qualifier de textes administratifs du fait de leur forme poétique, mais ils doivent être inclus dans de tels corpus de textes et ils permettent de comprendre la construction de l'État ou d'autres réalités politiques à partir de sources tout à fait littéraires.
Autre notion que j'aimerais aborder, on dit souvent, en fait, que l'histoire commence quand on a commencé à écrire, quand on a des traces du langage, puisque la préhistoire passe pour une période dont on ne connaît rien, parce que justement, il manquait cette écriture. Alors, peut-on quand même faire l'histoire de la préhistoire, et est-ce qu'on en sait un petit peu sur le langage des hommes de cette période-là?
Alors ça, c'est un aspect, alors, là je le dis, est compliqué pour un historien comme moi, qui souvent, historien est un peu coupé d'un autre type d'historien qui est le préhistorien ou le proto-historien, dont le domaine de compétence repose notamment dans la mobilisation de l'archéologie. Et là, c'était une des idées du numéro, hein, donc je l'ai pas dit dans la présentation, mais il y a 13 contributions, 13 articles assez courts, hein, donc chaque fois, voilà, sur un thème précis ou global abordé de manière général, donc 13 contributions, des lectures d'ouvrages, des traductions, je l'ai dit, la traduction d'un article, celui de Jürgen Trabant, la traduction d'une source, un texte de Pietro Bembo, et puis deux entretiens. Donc j'ai évoqué celui brièvement avec Jacques Guillaumou, et il y en a un autre avec Jean-Paul Demoule précisément, donc qui se définit lui-même comme proto-historien, hein, et il permet d'aborder ce rapport du proto-historien à la langue de deux manières. Une première manière qui est autour de son ouvrage d'il y a 2 ou 3 ans sur le mythe des Indo-Européens, hein, sur le rapport au XIXe siècle entre l'archéologie en train de se construire comme science et la linguistique, et cette question de l'origine et du mythe Indo-Européen repris un temps par les archéologues de leur lecture d'un certain nombre de linguistes du XIXe siècle, mais il l'aborde aussi dans l'entretien à travers les questions que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire de voilà comment fait-on l'histoire, la proto-histoire en l'occurrence, l'histoire du néolithique, dans un moment durant lequel on, non seulement, mais ça c'est une question bien plus transversale, comment est-ce qu'on accède aux langues que les gens parlaient, hein, voilà. L'historien, a appris depuis le XIXe siècle à dépasser la mobilisation des seules sources écrites, scripturaires, pour mobiliser les images et d'autres types de sources. Mais malgré tout, une des grandes difficultés pour toute l'histoire jusqu'au XXe siècle, c'est celle de savoir quelle était la langue orale des gens. Mais cette question, elle est amplifiée pour le préhistorien qui, lui, n'a que pas ou peu accès à des sources écrites même. Donc il passe par d'autres types de sources, l'archéologie en particulier, même si un certain nombre de travaux tout à fait récents tentent d'insister sur des formes de proto-écriture, hein, sur la lecture de l'art pariétal comme une forme d'écriture, sur les relectures de proto-écriture comme le linéaire B, le linéaire A, voilà. Donc des travaux qui aussi tentent de lire des choses qu'on reliait à un savoir purement iconique à peut-être des formes d'expression par des signes de langue. Mais voilà, là, un des aspects intéressants abordés par Jean-Paul Demoule dans l'entretien, c'est de voir comment, en proto-historien, on peut avoir un rapport aux hommes du passé sans connaître la langue dans laquelle ils s'exprimaient.
Alors, autant il y a des fois où on n'a pas ce langage, et puis dans d'autres cas, c'est le cas simplement de l'historien qui veut lire des historiens anglais ou chinois, et qui se retrouve confronté à une langue différente, et donc à un système culturel différent, mais c'était également le cas des missionnaires, quand ils allaient à la rencontre des peuples et qu'ils devaient déchiffrer vous citez un prêtre qui disait que la seule raison qui pouvait pousser à la traduction traduction, je crois, du chinois, si je me trompe pas, était Dieu, tellement c'était compliqué. Et alors, quand on est face à cette multiplicité des langues qui explique l'histoire différemment, quelles sont les richesses et quels sont les dangers de cette traduction nécessaire pour pouvoir accéder à un savoir un peu plus universel?
Alors, parmi les thématiques qui se sont dégagées dans l'approche historienne des langues dans les dernières années, il y a notamment un certain nombre de travaux qui sont passés par l'étude des traductions. Hein, effectivement, c'est un aspect central, l'histoire des traductions. Hein, il y a même les universités anglo-saxonnes en sont friandes. Hein, un champ qui s'est défini autour de ce qu'on a appelé ces translation studies. Au-delà de ce champ-là, cette question de la manière dont on traduit est tout à fait centrale. Alors, à deux niveaux, me semble-t-il. Bah, d'abord, dans leur épaisseur historique, et vous avez raison d'évoquer cet exemple-là, hein, celui de la Chine du XVIIe siècle et de toute la politique linguistique menée par les missionnaires, une politique linguistique diverse, riche, va dans ce sens-là, d'une étude plus précise des traductions, de la manière dont on traduit et de la diversité des langues. Ça, je pense que c'est un aspect un peu commun à différentes des contributions, c'est d'insister sur le fait que grâce à cette approche pluridisciplinaire, historienne mais pluridisciplinaire des langues, eh bien on en est venu à avoir un point de vue plus complexe sur ce que sont les langues du passé, ce qu'ont été les langues du passé. Si on en reste au cas chinois, bon, il s'exprime dans la contribution de Hu Hui dans l'article, hein, autour de la politique menée par les missionnaires, eh bien ce qui ressort du texte et d'autres travaux, hein, d'historiens qui ont travaillé sur ces questions-là, je pense d'Antonella Romano, de Nicolas Standart, c'est un panorama beaucoup plus complexe de la question linguistique dans la Chine du XVIIe siècle, complexe du côté des missionnaires, avec une grande variété de langues menées par ces missionnaires, hein, où il dresse un état des lieux linguistiques des langues parlées par les missionnaires, avec des missionnaires flamands, des missionnaires portugais, des missionnaires français, hein, ceux qui sont envoyés par Louis XIV lors de l'expédition dite des mathématiciens du roi en 1685. Donc, une multiplicité de langues parlées par les missionnaires qui arrivent dans une Chine où, alors que on a l'impression que une seule langue y est parlée, et vous évoquez effectivement ce corpus de textes issu en particulier des travaux des jésuites, hein, qui pendant tout un temps ont un monopole sur la mission en Chine, des textes qui circulent dans l'Europe du XVIIe siècle, il y a un corpus un peu topos qui circule, qui est repris, Alvarez Semedo, Ricci, Trigo, et dans ces textes, ce que l'on en tire, et vous citiez peut-être dans mon article, hein, le fait que, voilà, quand un auteur s'intéresse au XVIIe siècle à la question de la langue universelle, un des points de référence, c'est la Chine, parce qu'on a l'impression que le chinois est une langue universelle, hein, une langue qui est comprise, en tout cas, si ce n'est universellement, du moins universellement à l'échelle asiatique. Mais au-delà de cette simplification de la lecture des textes missionnaires, ce qui transparaît de leur étude précise, c'est que non, il y a une grande fragmentation linguistique dans le contexte chinois. Par exemple, bah, la langue qu'apprennent dans un premier temps les missionnaires chinois, Ricci par exemple, à Macao, n'est pas celle qui est parlée à la cour de Pékin, donc des questions, des problèmes se posent de ce point de vue-là. Et puis, dans le temps long aussi de ce contexte chinois du XVIIe siècle, qu'évoque Wu Hui, eh bien, on a aussi un moment de, si ce n'est de transition, du moins de superposition entre le mandarin, la langue des Han, et le mandchou. Et beaucoup de travaux récents autour de la mission en Chine ont conduit à revaloriser, par exemple, la place fondamentale du mandchou, hein, qui est la langue officielle, une des langues officielles de la dynastie des Tsing. Je pense aux travaux de Catherine Jamy, par exemple, qui ont permis d'insister sur le fait que, voilà, On a des missionnaires qui parlent des langues diverses, qui traduisent des travaux dans des langues diverses, puisqu'on passe de traductions de Ricci en mandarin à la fin du XVIe siècle à des traductions réalisées par certains des missionnaires français de la mission de la fin du XVIIe siècle, qui, elles, sont des traductions en langue mandchoue. Donc un panorama linguistique complexe qui a conduit à la nécessité de cette pratique de la traduction, qui est un aspect tout à fait fondamental de l'étude des langues et qui chaque fois doit être recontextualisé. C'est la tâche de l'historien, c'est l'apport de son approche des langues que cette recontextualisation précise de ces traductions, par exemple.
Le sujet de votre article, en particulier donc dans cette revue, Fabien Simon, est sur Antoine de Vienne-Plancy, qui a eu le projet ambitieux de créer une langue universelle. Était-ce pour créer une histoire universelle ?
Alors effectivement, Antoine de Vienne-Plancy est un des auteurs qui, relativement nombreux finalement, qui au XVIIe siècle ont tenté de créer une langue universelle. Alors oui, alors pas dans ses travaux à lui spécifiquement, mais un des aspects, ça pourrait être de tenter, grâce à cette langue, de produire une histoire universelle. En tout cas, chez bien de ses auteurs, il y a l'idée centrale d'aboutir à la constitution d'un savoir universel. Un des projets qu'il exprime de la manière la plus explicite et la plus poussée, hein, qui est un des projets les plus connus de cette période-là, c'est celui de John Wilkins, le caractère réel. Et le point de départ de John Wilkins, ce sont des tables, hein, la langue fait référence à ces tables, s'inscrit dans ces tables, des tables qui sont des arborescences gigantesques, cherchant à organiser tout le savoir du XVIIe siècle. Donc voilà, il y a l'idée de produire un savoir universel, et pourquoi pas une histoire universelle, mais ce qui m'intéressait à travers l'étude de ce cas dans le cadre de ce dossier, une étude de cas dans le cadre d'un dossier qui aborde par ailleurs des aspects beaucoup plus théoriques, hein, vis-à-vis de ce traitement des langues par les historiens. J'ai eu la chance de lire un certain nombre de ces contributions que j'avais sollicitées auprès de leurs auteurs, et donc je me suis dit que moi j'allais proposer cette étude de cas précise, mais qui permet d'aborder une question plus globale sous un biais un peu particulier. La question plus globale, c'est celle de la manière dont une langue, dont les langues sont, la manière dont elles sont maniées, permettent d'affirmer l'identité de ceux qui les manient. Les langues permettent de faire communauté, hein, et un des points de référence chez les historiens du travail sur les langues, ce sont les travaux de Peter Burke, dont un des ouvrages est précisément intitulé « Languages and Communities ». Et là, l'idée, c'était d'aborder cette question-là à partir d'une langue qui n'a jamais été adopté. Comment est-ce qu'une langue, qui est un échec, tous ces projets, en fait, de langue universelle, et d'ailleurs, je pense que, bon, je vous ai dit que le caractère réel était le plus connu, mais je pense que bien des auditeurs n'en ont jamais entendu parler, et aucune honte à eux, hein, puisque ces langues n'ont jamais été adoptées, mais malgré tout, elles ont contribué à créer une communauté, non pas de locuteurs, mais une communauté de scripteurs, et d'ailleurs beaucoup de ces langues sont des langues simplement écrites, hein, des pasigraphies, des communautés d'inventeurs de langues. Et ce qui était intéressant à travers l'étude de cette langue créée par de Vienne-Plancy, c'est d'une part qu'elle paraît dans un format un peu particulier, puisqu'elle paraît sous forme de feuilleton, dans un périodique, et là on retrouve les questions que l'on abordait tout à l'heure du rapport entre littérature et science. Et ben voilà, au XVIIe siècle, un périodique mondain, le Mercure Galant, en l'occurrence son supplément, qui s'appelle L'Extraordinaire du Mercure, est un lieu dans lequel paraissent des textes scientifiques. Hein, il y a des jeux, des énigmes, et puis des textes scientifiques, des textes d'astronomie, et puis des textes sérieux autour d'une question qui semble ne pas l'être au départ et qui a pour partie des aspects de jeux littéraires, c'est un travail sur la langue universelle. Donc de Vienne-Plancy fait paraître un texte, un traité sur la langue universelle qu'il invente, qui est une langue algébrique, hein, qui se veut une langue numérique. Pour aimer, on dit 100.10.
On sent l'influence de Descartes, à moins que je me trompe.
Alors de Descartes, ça fait pas partie des auteurs qu'il mentionne, mais par contre il a lu des traités de mathématiciens de la période. Hein. Il cite des traités d'Érigone, de François Viète, donc il s'appuie sur les traités de mathématiciens. Descartes, je ne crois pas qu'il le mentionne, mais Descartes s'est intéressé dans une correspondance avec Mersenne à la question de la langue universelle, dont il dit qu'elle est tout à fait utopique, hein, et donc mieux vaut en rester finalement au latin, que lui-même dépasse par l'emploi du vernaculaire. Mais ce n'est pas l'avis d'autres auteurs qui, eux, font cette tentative et De Vienne-Plancy fait paraître sur 10 numéros, près de 500 pages, son projet de langue universelle, et qui est, peut-être, je le disais, aussi un projet d'histoire universelle, mais qui est aussi, le traité, une sorte d'histoire immédiate de ces différents projets de langue universelle, et c'est là qu'on retrouve la communauté de ces inventeurs de langue, ce De Vienne-Plancy, hein, qui est un petit noble de Champagne. Il a lu, avec des biais très détournés, les autres projets de la période, les projets anglais, qu'il n'a pas lu en anglais, une langue qu'il ne maîtrise vraisemblablement pas, peu de gens la maîtrisent. On n'a pas parlé du globish comme langue de la science internationale de l'histoire contemporaine. Au XVIIe siècle, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il les a lus par l'intermédiaire d'une sorte de digest, publié en Allemagne, en latin, qu'il n'a même pas lu directement, mais qu'une de ses connaissances lui retranscrit par lettre. Mais malgré tout, il a accès, il se confronte à ces différents projets, et ce n'est qu'un cas parmi d'autres, mais c'est les auteurs de projets de langue universelle du XVIIe siècle échangent les uns avec les autres, et même si ces langues sont des échecs en tant que telles, elles ont contribué à créer ces communautés autour de ce vide, et à animer ce que j'ai pu définir comme une province de la République des Lettres, centrée sur cet aspect tout à fait particulier, mais qui anime les correspondances d'auteurs majeurs de la République des Lettres du XVIIe siècle, comme Kircher ou Wilkins.
Tous ces projets de langue universelle du XVIIIe reflètent, vous l'expliquiez, une mentalité, un changement idéologique, un changement politique de la société. D'ailleurs, lors de la Révolution française, l'abbé Grégoire, lui, ne veut pas universaliser l'ensemble des langues du monde, mais il veut taire les patois en présentant un rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Donc, c'est des moments marquants dans l'histoire de France qui... où le lien entre politique et linguistique sont très forts. Augustin Cochin l'expliquait très bien par rapport aux sociétés de pensée de la fin du XVIIIe. On connaît l'impact énorme de l'écriture et de la publication de la Bible à la fin du Moyen-Âge dans l'évolution de la pensée. Selon vous, quels sont... On a bien sûr parlé de la préhistoire et de cette fracture, ou plutôt de ce moment fondateur entre une période où on n'écrivait pas et une période où on écrivait ce qu'on disait. Quels sont, selon vous, les... 3, 4, 5 grands événements de l'histoire, ce n'est pas une question piège, qui propose un événement marquant entre l'histoire et son écriture, entre la langue et la société.
C'est malgré tout une question piège, pas évident de faire ressortir 4 ou 5 événements, mais c'est au-delà du piège, une question tout à fait intéressante. Pourquoi ? Parce que dans le dossier, il y a deux aspects. Dans la partie, donc on le disait, il y a cette partie sur la langue comme outil des historiens, et les langues comme objet d'histoire. Et parmi les langues comme objet d'histoire, il y a deux aspects. Un premier aspect qui est d'étudier les évolutions des langues, leur remise en contexte, dans ces évolutions à bas bruit des langues, dans la question du maniement des langues au quotidien, la formation d'une langue empirique, dont la manière dont les populations s'emparent des langues, ce que, et c'est un point de référence central, hein, Pierre Bourdieu appelle ces habitus linguistiques incorporés par les acteurs. Et puis, d'autre part, et c'est l'abord plus évident, il y a aussi la manière dont on peut étudier ce que, dans le dossier Olivier Christin ou Jacques Guillaumeau appellent des événements linguistiques, des moments marquants de l'évolution des langues, qui sont de nature tout à fait diverse. Hein, et là, ce serait une forme de réponse à votre question. On peut penser, mais encore une fois, il faut toujours avoir en tête les contextes précis, la fameuse Et là, on retrouve dans l'intitulé même, a posteriori de l'événement, la questione della lingua, hein, la question de la langue dans l'Italie du 14e, 15e, 16e siècle, hein, la question de la définition du vulgaire italien, avec des débats non seulement entre latin et langue vernaculaire, mais entre les différents vernaculaires, les différents vulgaires, et c'était l'idée d'insister sur cet événement linguistique-là en traduisant le texte de Pietro Bembo, hein, une traduction de Florence Bistagne, qui revient aussi sur cette question de la langue à travers l'étude du cas Pontano, hein, cet humaniste napolitain du 15e siècle. Et puis, un des aspects qui ressort de l'approche historienne pluridisciplinaire des langues, c'est cette nécessaire complexification de ces grands événements linguistiques. Vous évoquiez l'enquête sur les patois de l'abbé Grégoire, et on songe, en évoquant cette enquête, à l'ouvrage tout à fait fondamental, hein, de Jacques Revel, Dominique Julia et Michel de Certeau, Une politique de la langue, qui insistait sur la manière dont, dans ce moment-là, effectivement, il y a une volonté chez l'abbé Grégoire d'anéantir les patois pour universaliser la langue française, mais cette politique de la langue, elle est aussi, dans les travaux récents, son étude est complexifiée, hein, c'est ce que propose Paul Cohen dans différents de ses travaux, et dans son article dans la revue à travers la notion de gouvernementalité linguistique, hein, en insistant sur le fait que, voilà, au-delà de ces grands événements marquants, il faut insister sur cette, dans le cas de la langue française, sur cette évolution non linéaire, finalement, de la construction du français comme langue nationale. Alors, on pourrait donner des grandes dates. L'enquête de l'abbé Grégoire en est une. Antérieure, on songe évidemment à 1539 et l'édit de Villers-Cotterêts. Mais voilà. Bon, d'une part, la lecture qu'on proposait Ferdinand Bruno, par exemple, au début du XXe siècle, a été révisée. Ce n'est pas la tentative d'imposer déjà le français face au patois, mais plutôt... Ça a été lu comme ça, hein, déjà depuis un temps certain, la volonté d'imposer le français dans les actes administratifs face au latin, hein, l'imperium de la langue française face au latin attaché à un empire déchu, l'empire romain. Mais c'est surtout, non pas le français qui est imposé à ce moment-là, mais ce sont les français au pluriel. Et là, on retrouve ce regard plus complexe vis-à-vis des langues du passé, à leur diversité, hein, les langages français très divers qui s'expriment au XVIe siècle, au XVIIe, mais encore au XVIIIe siècle. Hein, Eva Guillorel le montre bien dans ses travaux à partir des archives judiciaires où elle accède dans un certain nombre de retranscriptions d'actes judiciaires à des formes d'oralité des langues du passé, au breton, à l'occitan, par exemple, dans des actes du judiciaire, on retranscrit des chansons infamantes, on attaque un notable breton en langue bretonne, et bien l'acte judiciaire retranscrit la chanson en langue bretonne qui a été formulée à ce moment-là, et donc on voit que le panorama linguistique français est très divers, il l'est en 1539, il l'est encore en 1794, et finalement, des travaux récents viennent aussi à réévaluer cette politique révolutionnaire plus diverse qu'elle n'a pu être présentée un temps, hein, et avec toute une politique de traduction aussi des textes révolutionnaires dans les langues du territoire, pas simplement un français qui écraserait toutes les autres langues, mais on traduit aussi des textes de la Révolution en basque, par exemple.
Merci beaucoup Fabien Simon de nous avoir parlé de ces langues, de ce rapport entre l'histoire et la linguistique. Vous avez également proposé dans votre revue de nombreux textes qui appuient tous ces articles, toutes ces thèses et qui nous permettent de nous plonger un peu avec un peu plus de voilà dans l'histoire directe, dans l'histoire de ces patois, dans l'histoire de la langue. Je rappelle donc le titre, le thème de votre dossier, donc l'historien et les langues, paru chez CNR édition en 2019. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Pourquoi tant d'histoires.